Merci. Bonjour à tous. Je vais vous dire ma joie d'être ici. Et ce n'est pas un vain mot. Parce que souvent, quand les orateurs commencent à parler, ils disent « j'ai beaucoup de joie à être ici ». Mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai attendu ce moment avec impatience. Je suis ravie d'être au milieu de vous. Je suis reconnaissante qu'on me fasse cette confiance de me donner la parole au milieu de vous. Et je compte vraiment sur le Seigneur pour qu'il ne nous déçoive pas. Ah, gloire à toi, Seigneur. Je le remercie beaucoup. Vous m'entendez bien, là, ça va? Bon, merci. Ah, merci. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a l'intention vraiment de nous toucher. Et je veux me laisser toucher. Vous aussi, n'est-ce pas? On a une soif infini de son amour, de sa tendresse, et on ne sait pas trop comment se laisser approcher par cette tendresse, pour qu'elle comble vraiment nos vies. Et donc, j'aimerais bien que ce matin, quelque chose de particulier se passe dans nos vies, que cette tendresse de Dieu puisse nous rejoindre en vérité, que nous puissions en vivre réellement, et devenir tendresse à notre tour, surtout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment visiter nos terres arides, nos déserts, ce qui manque de fruits, ce qui n'est pas fécond en nous, et justement ce qui ne peut pas répandre la tendresse de Dieu. Je pense qu'il veut venir nous rejoindre dans ce désert aride, de manière à faire fleurir notre désert. Il a cette intention, je crois, ce matin, de nous reparler de ça. Alors, je vais lire un texte que vous connaissez certainement très bien. Voilà, dans Ésaïe 55, au verset 10. Non, ce n'est pas celui-là que je voulais lire. Je le lirai après, pardon. C'est Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia! C'est une promesse extraordinaire que nous pouvons la faire nôtre aujourd'hui. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser à Israël quand je lis ce texte. Pour ceux qui d'entre vous sont allés en Israël et qui ont vu fleurir le désert. J'ai vu fleurir le désert. On était en Israël il y a 40 ans en arrière. On est revenu cette dernière année. Et de voir la transformation, de voir dans le désert des champs et des champs et des champs, de voir l'herbe, de voir les fleurs, de voir les arbres fruitiers. C'est quelque chose d'absolument bouleversant, bouleversant. Cette promesse de Dieu qui s'accomplit même physiquement là, en Israël. Et je pense aussi à une vidéo que ma sœur m'a envoyée. C'est une vidéo sur un désert qui existe en Amérique latine, qui s'appelle le désert d'Atacama. C'est un désert le plus aride du monde. Et où il pleut très peu, quelquefois qu'une fois tous les 4 ans. Mais si par hasard il pleut, même une toute petite pluie, le désert se met à fleurir, fleurir, fleurir. Et sur des kilomètres carrés, il y a des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et là, je regardais ces fleurs sur une vidéo, hein, et j'en étais bouleversée, bouleversée. Et ça, c'est prophétique de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. C'est le désert aride, il n'y a rien apparemment, mais si, il y a quelque chose, il y a des graines, il y a des germes qui ne demandent qu'à être arrosés pour fleurir, porter du fruit. Et ça ne se fait pas tout seul, Ça se fait parce que, pardon, on laisse la pluie de Dieu venir. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne ensemble, à partir de maintenant, que si nous sommes dans le désert et que notre vie nous semble inutile, que nous avons cette impression terrible d'avoir perdu des années, d'avoir été volé sur notre jeunesse, d'avoir pas réussi nos vies comme on aurait voulu, si on est dans cette impression-là, eh bien c'est la bonne impression. Parce que si nous sommes dans le désert et la solitude du désert, si nous avons l'impression d'être abandonnés, si nous vivons encore sous le poids de nos blessures d'abandon d'antan et que nous n'arrivons pas à en sortir, nous sommes au bon endroit. Donc, si parmi vous des personnes sont comme ça, et je sens très bien dans mon esprit que beaucoup de personnes parmi nous ont un besoin terrible de voir leur désert fleurir. De voir leur désert fleurir et des fruits apparaître, de manière à ce que nos vies deviennent fécondes. Nous avons besoin de ça et le Seigneur a besoin de nous pour ça. Et donc, si on en est là, c'est que le Seigneur va faire quelque chose. Et donc, nous allons invoquer sur nos vies la pluie céleste, cette pluie dont nous avons besoin pour que nos germes fleurissent, pour que les trésors qui sont cachés sous le sable, sous la cendre, sous les décombres de nos vies. Nous avons l'impression d'une destruction de nos vies, que ce ne sont que des décombres quand nous voyons nos vies. Alors aujourd'hui, Jésus, notre Messie, Yeshua HaMashiach, il veut exercer au milieu de nous ces signes messianiques. Les signes messianiques qui nous sont redits dans ce texte d'Ésaïe, c'est les oreilles des sourds s'ouvrent, les yeux des aveugles s'ouvrent. Et voilà, ces maladies terribles qui sont les nôtres, ces handicaps qui sont les nôtres, nous sommes sourds, muets, aveugles. Maintenant, le Messie veut encore nous visiter et nous délivrer, nous guérir. Donc, nous avons besoin d'ouvrir les yeux, qui viennent guérir notre vision fausse sur nos vies. Nous ne voyons que le désert. Par moments, il y a comment on appelle ça dans le désert ? Un mirage, avec l'impression, ah, peut-être que c'est enfin une oasis. Alors on voit cette oasis, et puis, ah, c'était un mirage. Mais en ce moment, ce que le Seigneur veut faire, c'est nous dire qu'il n'y a pas de mirage. Il y a une oasis pour nous. Il y a un endroit où il y a de l'eau et où dans notre désert, quelque chose va fleurir. Il veut ouvrir nos yeux pour qu'on le voie. Vous savez, c'est comme, excusez-moi, là, en ce moment, je ne trouve pas les mots, les noms, la servante de Sarah que Abraham rejette dans le désert, Agar. Elle était dans le désert, ils étaient en train de mourir de soif avec Ismaël. Et d'un coup, ses yeux s'ouvrent. Et elle voit le puits. Je prie pour qu'aujourd'hui nos yeux s'ouvrent et que le Messie vienne vraiment aujourd'hui guérir notre aveuglement qui nous empêche de voir l'eau là où elle est, qui fait qu'on crève de soif dans notre désert alors qu'il y a de l'eau et alors qu'il y a des graines qui ne demandent que ça, d'être arrosées. Il faut qu'on aille à la recherche de ces graines et à la recherche de l'eau, vous voulez bien ? C'est très important, hein, très important, parce que nous ne pouvons pas rester dans l'état où nous sommes. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser dans l'état où nous sommes. Donc aujourd'hui, il vient avec son amour nous dire, nous secouer un peu et nous dire, mais je vous aime. Et c'est ça l'eau dont nous avons besoin. C'est le déversement de la tendresse qui coule du cœur de Dieu, d'une tendresse inouïe. Et nous, nous sommes en train de crever de manque de tendresse, de savoir recevoir la tendresse et surtout de savoir en donner. Nous sommes un peu psycho-rigides. Je dis nous, ce n'est pas dit vous. En France, en tout cas, on est comme ça. En Suisse, non. Nous sommes un peu, beaucoup des fois, psycho-rigides, très légalistes, enfermés dans nos lois. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et du coup, on s'enferme dans des boîtes et on veut enfermer les autres dans des boîtes. Et après, on se dit, mais mince, je suis en train de crever de faim et de soif dans ma boîte. Parce qu'on a peur de cette vision du désert qui est autour de nous. Mais parce que nous n'y voyons pas qu'aujourd'hui, Dieu veuille bien nous visiter et ouvrir nos yeux, de telle sorte que nous puissions voir, au travers de ses yeux, les trésors qui sont en nous, qu'il a déposés en nous, et qui n'ont pas pu encore venir à la vie. Beaucoup de choses sont en nous qui n'ont pas pu venir à la vie. C'est une force de résurrection, une force de vie incroyable qui est en nous, et c'est quelque chose d'inimaginable. La puissance qu'il peut y avoir dans une graine. On disait hier avec, je ne sais plus l'un d'entre vous, on disait, oui, c'était à partir d'une bouture de vigne. Une bouture de vigne, même pas sans, avec des racines, juste la bouture qui avait trempé dans l'eau, des feuilles étaient là. Et on disait, mais quelle puissance il y a dans ce bout de bois pour que des feuilles sortent, qu'après il y aurait des racines et après ça va faire quelque chose sur la pergola, là, sur la terrasse, et ça va porter du fruit. Mais c'est inouï, ce genre de choses, c'est pas vrai ? Hein ? C'est inouï. Et j'y réfléchis toute la nuit, je me disais, mais quelle merveille ce qu'on peut trouver dans les plantes comme puissance de vie. Mais nous ne sommes plus que des plantes. La puissance de vie qui est en nous est bien plus grande. Pourquoi est-ce que nous ne portons pas de fruits? Pourquoi est-ce que les feuilles et les fleurs ne poussent pas dans nos vies de telle sorte que tout le monde puisse se réjouir et que tout le monde puisse venir goûter les fruits délicieux que nous portons? Seigneur, je crois qu'il veut secouer l'Église. Il veut secouer l'Église. Vous savez, l'incendie de Notre-Dame de Paris, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Ça a été quelque chose d'assez terrible. Moi, j'ai sangloté tant que j'ai pu. Je ne savais pas pourquoi je sanglotais. Je n'aimais pas plus que ça Notre-Dame de Paris. Je suis allée peut-être une seule fois dans ma vie. Mais de voir cet incendie et la destruction, une espèce de pouvoir maléfique de destruction, un truc de feu là, tout d'un coup je pleurais, je disais l'Église est en feu, l'Église est en feu. Mais oui, l'Église est en feu. Mais oui, l'Église peut être en cendres et se retrouver en cendres. Mais oui, c'est vrai, c'est prophétique de quelque chose. Mais sous les cendres, on peut retrouver les trésors. Et c'est ce qui s'est passé. On a retrouvé des trésors. Et donc, pour moi, c'est prophétique. Je dis, sous ma cendre, sous la destruction, sous mes ruines, il y a des trésors et je veux aller les trouver. Je veux aller les trouver. Je veux écouter les prophéties de Dieu. Je veux voir les signes qu'il nous donne. C'est des signes énormes. Et il faut qu'on les lise. Il faut qu'on les lise, ces signes-là. Et ce n'est pas parce que je suis amoureuse des vieilles pierres et tout ça, et même de la charpente extraordinaire, très, très ancienne et tout ça, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu nous dit à travers les événements de nos vies, à travers l'histoire. Et nous, en tant que Français, ça nous a beaucoup touchés, mais ça nous a touchés, moi, ça m'a touchée parce que c'est un signe de Dieu. Du Dieu qui veut nous sortir de nos cendres et nous faire nous relever, absolument. Est-ce que vous êtes d'accord de vous relever? Oui, on est tous d'accord. On a envie de porter du fruit, n'est-ce pas? On a envie de porter du fruit. Et moi, je suis dans l'étonnement. Je suis dans l'étonnement parce que je suis là devant vous en train de vous parler avec un peu de tremblement parce que je suis intimidée. Je suis toujours aussi timide qu'autrefois. Mais le Seigneur a tellement bouleversé ma vie et m'a fait tellement renaître de mes cendres que je suis rendue capable de porter du fruit et de vous distribuer mes fruits. Mes richesses qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles que Dieu a fait pousser en moi. Et c'est quand même les miennes. C'était des choses qu'il avait déposées en moi depuis toujours, mais qui ne portaient pas de fruits. Ça ne venait pas à la vie. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est parce que j'ai eu des deuils très, très profonds et très douloureux, et particulièrement parce qu'on a perdu un fils il y a de nombreuses années, puis un autre encore, à l'âge de 20 ans. Ça fait déjà 20 ans, mais ça fait 20 ans que je revis. Depuis la mort de cet enfant, je revis. Et pourquoi ? Parce que j'étais tellement dans l'enfermement sur moi-même et psychorigide et très perfectionniste. J'essayais de tout faire bien pour que tout le monde soit toujours content. Et mon existence, c'était d'aider les autres et de faire des choses pour les autres. Et surtout, m'oublier moi-même et pas penser à moi. Puis Dieu, ça le satisfait pas, faisait pas. Je portais pas de fruits. Malgré tout ce que j'essayais de faire, ça portait pas de fruits. Aucun fruit visible de la grâce de Dieu. Et puis, ce tremblement de terre, de ce deuil terrible de la mort de notre fils, ça m'a tellement ébranlée. C'était comme un volcan et j'étais prise dans le feu de ce volcan. Comme la cathédrale, c'était un feu dévorant, impossible à arrêter. Et quelque chose de terrible, mais qui a brûlé toutes mes fausses croyances, qui a brûlé toutes les fausses croyances sur moi-même. Tous les enfermements sur moi-même. Et puis, tous mes enfermements, comment j'avais enfermé Dieu dans ce que je voulais qu'il soit pour moi. Je pensais que sa bonté, ça voulait dire que rien de malheureux ne pouvait m'arriver puisque je lui avais donné ma vie. Vous comprenez ? Une fausse croyance sur Dieu. Il n'existe pas pour me protéger du malheur. Il existe pour être présent dans ma vie. Et pour que je sois présent avec lui dans ma vie. Parce que je fuyais ma vie tout le temps. J'étais en dehors de moi tout le temps, je ne m'intéressais pas à moi. Et quand, avec ce tremblement de terre, je suis passée par le feu, après la lave a refroidi, après le deuil, la terre était devenue fertile, extrêmement fertile, et mes graines ont commencé à pousser. J'ai redécouvert qui était Dieu, quelle était cette tendresse qu'il avait pour moi, et je l'ai découvert au sein de la souffrance la plus terrible. Et au sein de cette souffrance la plus terrible du deuil, que vous pouvez, chacun, vous pouvez en avoir fait l'expérience, je ne suis pas unique là-dedans, mais il se trouve que voilà, le Seigneur m'a bénie à travers ça, et j'ai pu être au bénéfice, finalement, d'une tendresse infinie. J'ai redécouvert la tendresse de Dieu au sein de la souffrance. C'est quelque chose d'inouï, je trouve que c'est une grande grâce. C'est à partir de là, ayant découvert qui j'étais vraiment, que j'ai commencé à en parler partout et à dire « on peut revivre, on peut ressusciter, la vie est plus forte que tout, la vie est plus forte que la mort. » La vie est plus forte que la mort. Et il s'agit de devenir bien vivant avant de mourir. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut me guérir avant que je meure. Et la mort de mon fils m'a fait comprendre que j'étais à moitié morte, que je n'étais pas vivante et que je ne portais pas les fruits que Dieu voulait que je porte. Et j'aurais pu rester comme j'étais et jamais je serais venue ici ni nulle part ailleurs où on voyage partout dans le monde, on me demande pour parler de cet amour fou et de cette tendresse de Dieu qui nous console profondément dans nos épreuves. Qui nous console de toutes nos épreuves, parfaitement. Et j'ai été vraiment consolée. Et le Seigneur m'a redit ce que c'était que ma véritable identité. Vous savez, j'étais tellement mal dans ma peau, et j'étais mal dans ma peau parce que je ne m'entendais pas bien avec mes parents, et particulièrement avec ma mère, qui n'était pas contente du tout de moi pour toutes sortes de raisons. Et donc, il y avait de la haine entre nous. Et c'était difficile à résoudre. Et pendant presque 10 ans, elle ne m'a pas parlé. Et en même temps, c'était très bien parce que j'ai pu faire un travail de la lâcher. Mais ce n'était pas complètement fait. Et un jour, alors que j'étais en train de consoler quelqu'un qui pleurait, au moment où je consolais cette personne, le Seigneur m'a parlé à l'intérieur de moi. Et il m'a dit, « Puisque tu as été consolée, oui, je fais de toi une consolatrice. Et ton nouveau nom, c'est Consolation. » J'étais contente. Et au moment où je reçois ça, je pense à ma mère et je dis, Seigneur, je la lâche. Je l'innocente, elle est innocente de tout ce qui s'est passé entre nous. Toi-même, tu es innocent de toutes mes souffrances et moi, je suis innocente aussi parce que ta grâce nous innocente tous. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est innocenter et arrêter d'entretenir de ressentiment, de la frustration, des sentiments d'injustice. Toutes ces choses qui empoisonnaient ma vie et faisaient que ma vie était en cendres, détruite, dévastée. Et là, à partir du moment où j'ai dit, Seigneur, j'innocente ma mère, un amour pour ma mère m'a envahi. Quelque chose que j'avais jamais connu, un amour nouveau, c'était l'amour de Dieu pour ma mère, qui passait par moi. Et j'ai commencé à l'aimer de la bonne façon. Elle n'a pas changé pour autant, elle était toujours aussi odieuse, mais ça ne me touchait plus. Non, mais elle était malade, elle avait une paranoïa assez grave, elle se mettait dans des colères pas possibles et ça nous mettait dans la terreur quand on était enfant. Mais là, c'était fini, fini. Et Deux jours après cette expérience, je rentre chez moi et ma mère me téléphone après 10 ans de silence. Elle me dit « Anne, je voudrais l'adresse de Madame Intel. » J'ai dit « Maman, tu m'appelles pour une adresse. » Elle me dit « Ben non, en fait, avec papa, on voudrait te revoir. » Ils sont venus nous visiter. Ils nous ont bénis. Ils nous ont acheté un lit conjugal. On manquait d'un lit, alors que pendant des années, ils ont essayé de nous séparer. Ils étaient furieux de mon mariage. Et bien là, ils ont acheté un lit, parce qu'ils ont entendu, quand on était à table, mon mari disait « Il faut quand même qu'on arrive à acheter ce lit. J'ai vu un lit, il est pas mal. » Et mon père est allé l'acheter. C'était une bénédiction. Et puis, ils sont venus habiter près de chez moi, pour que moi, qui suis infirmière, je m'occupe d'eux jusqu'à leur mort. Mais j'étais le vilain petit canard de la famille, rejeté de tous dans ma famille. Mes frères et sœurs ne me parlaient plus, plus personne ne me parlait. J'avais trop fait souffrir maman. Ben la maman, elle m'a demandé d'être là. Et il n'y avait que moi dans la famille qui pouvait rester plus de 2 jours chez eux. C'était tellement odieux d'y rester. Et là, j'y allais, tranquille. Vraiment, j'étais vraiment encore le canard, mais ça me glissait sur les plumes du canard. Et le jour de mon anniversaire est arrivé, c'était au moment où mon père était vraiment mourant, en fin de vie, tout à fait en fin de vie. Pendant mon anniversaire, ma mère se lève le matin, moi j'avais veillé mon père toute la nuit, et elle me dit « Oh Anne, j'ai pensé à ta naissance ». J'ai dit « Seigneur, fais qu'elle me dise ce qu'elle a à me dire avant de redire ses insanités ». Quel est un moment de lucidité suffisant, je sentais que le Seigneur voulait me dire quelque chose par sa bouche. Et elle me dit, voilà, j'ai quelque chose que tu n'as jamais dit. Quand tu étais tout bébé, je t'appelais ma consolation. Je vous raconte ça à cause de ça. C'était vraiment ce que le Seigneur voulait pour moi depuis toujours, mais l'inimitié entre moi et ma mère avait fait que ma vie était comme en cendres, brûlée, détruite. Et ces graines d'amour, de tendresse qui était au fond de moi, n'avait pas pu germer. Et là, ça y est, ça germait. Et forte de cette identité nouvelle, je viens pour vous consoler, pour vous apporter de la part du Seigneur une parole de consolation. De sa part, une parole de consolation, que chacun d'entre vous, vous puissiez ouvrir vos cœurs et dire « Je veux bien être consolé ». Et j'ai pris l'habitude régulièrement de dire « Papa, console-moi, là j'ai trop mal ». Parce que les douleurs, elles sont toujours là, et on en a toujours, et on a de grandes difficultés. On a des grandes difficultés dans le couple, pas très grandes maintenant, mais on en a eu. On a eu des difficultés, en ce moment les difficultés qu'on a, c'est avec nos enfants, qui ont laissé tomber le Seigneur, et qui souffrent. Qui se séparent de leurs conjoints, les enfants, les petits-enfants, qui souffrent. Ça nous brise le cœur, ce genre de choses, ce constat-là. Eh bien, on a appris à dire à papa, console-moi. Là, j'ai trop mal, console-moi, papa. Et c'est extraordinaire, dès qu'on fait ça, papa, console-moi, il le fait. Il le fait, il vient et il nous dit rien de particulier, mais il nous fait des cadeaux. Comme tout père, quand son enfant souffre, le papa, il ne sait pas trop quoi faire, alors il fait des cadeaux. Eh bien, mon papa du ciel, il me fait des cadeaux absolument fabuleux. C'est des choses auxquelles je ne m'attends pas vraiment, et puis qu'il me les fait, et c'est une consolation. Ah, il ne change pas mon épreuve. J'ai toujours aussi mal, et je suis toujours aussi, atteinte par l'épreuve, mais... Ce qui change, c'est le cadeau de sa présence. D'abord, il me fait le cadeau de sentir sa présence. Et puis, des fois, je ne la sens pas, mais j'ai ma foi qui est fortifiée en sa présence. Et c'est un beau cadeau. Mais il me fait vraiment des cadeaux. Je vais vous en raconter une histoire, hein, pour dire comment il console. Et vous pourrez faire pareil, d'accord ? Ce n'est pas pour parler de moi, c'est parce que j'ai des exemples à partir de moi. Et... Un jour, j'ai souffert beaucoup parce que j'avais été invitée à aller parler du Seigneur avec des jeunes et à leur parler de l'identité. C'était quelque chose d'important, parler de l'identité, la sexualité aux jeunes. C'est quelque chose de tellement essentiel à l'heure actuelle. Je m'étais bien préparée à cette session. Et puis voilà qu'au dernier moment, on me dit « Ben non, on préfère que tu ne viennes pas, tu es trop charismatique, ça risque de mettre la pagaille. » Je n'avais jamais mis la pagaille nulle part. Sauf au fond des cœurs, un peu, quand même. Je jette des pavés dans la mare et ça fait quelques remous. Mais quand même, ils avaient peur que je sois cette charismatique illuminée qui faisait se rouler les gens par terre et tout ça, là. Non, ce n'était pas ça que je faisais. Mais l'Esprit-Saint, c'est vrai, agissait avec force à travers moi, c'est vrai. Et ils ont eu peur. Et ils m'ont dit, non, tu ne viens pas. Et alors, j'ai pleuré, alors que je me forçais à y aller. Moi, je préfère rester chez moi, tranquille, hein, dans mon fauteuil, hein, à écrire mes petits bouquins. Et d'aller là-bas, c'était tout un voyage, c'était toute une organisation. Je dis, bon, ben, je pouvais dire, bon, ben, tranquille, je reste chez moi. Mais non, je pleurais. Je me revois étendre mon linge et les larmes qui coulaient sur mon linge. Je dis, mais pourquoi je perds tant d'eau? Et jusqu'au bout d'un moment, j'ai compris que c'était l'Esprit-Saint qui était attristé en moi. Vous savez, on peut vivre vraiment de l'attristement de l'esprit. Ils disaient, mais pourquoi ces gens accusaient l'Esprit-Saint d'être un metteur de pagailles? Eh bien, là, d'un coup, j'ai dit, ah, mais là, je souffre trop, c'est pas possible. Papa, console-moi! Et puis, pas un petit cadeau, hein, s'il te plaît, parce que là, j'ai très mal. Un gros cadeau. Et toute la journée, j'ai eu des cadeaux, des coups de téléphone. Une personne qui me dit, ben, vous savez, vous aviez prié pour moi tel jour, et bien là, je suis guérie. Waouh, génial, merci Seigneur pour ce cadeau. Puis je raccrochais, puis je disais, non, ce n'est pas encore le gros cadeau. Et toute la journée, c'était comme ça. Ah non, ce n'est pas encore le gros cadeau. Et pourtant, c'était des choses assez super. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais le sentiment que Dieu voulait encore faire quelque chose. À minuit moins le quart. Je dis au Seigneur, tu n'as plus qu'un quart d'heure. Et là, mon téléphone sonne à nouveau. Et là, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un ami prêtre qui habitait à Jérusalem, que je n'avais pas vu depuis longtemps, que je connaissais, mais pas plus que ça. Et là, il me dit, écoute, il y a un miracle qui est en train de se passer. Je t'appelle à partir de mon ordinateur, mais il n'y a plus de courant. Donc, ce n'est pas normal que j'arrive à t'avoir. Donc, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et il me dit, voilà, Dieu vient de me parler dans la prière, et il m'a dit, appelle Anne Merlot, elle a besoin de consolation. Alors il me dit, explique-moi, puis je te préviens, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Alors je lui explique, et il me dit, eh bien, reçois ce cadeau de consolation, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et paf, ça s'arrête. Mais je ne vous dis pas la joie de mon cœur. Je faisais des bonds au plafond, à toucher le plafond presque. À minuit, chez moi, toute seule, mon mari n'était pas là. Oh, qu'est-ce que je me suis réjouie. C'était le cadeau extraordinaire. Dieu avait vu ma souffrance et il voulait me consoler parfaitement. Parfaitement. Me dire, mais tu es précieuse pour moi. Et ce n'est pas parce qu'on vit des rejets qu'on n'est pas précieux pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que nos enfants nous rejettent qu'on n'est pas précieux pour le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on a rejeté nos enfants qu'on n'est pas précieux pour le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on a du souci pour les nôtres qu'on n'est pas précieux pour le Seigneur. On est précieux pour lui et il veut déverser sur nous sa tendresse et nous le redire. Qu'aujourd'hui son Esprit-Saint vienne sur nous là maintenant, sur l'assemblée que nous formons et déverse sa tendresse. Qu'il nous prenne dans ses bras comme on a été dit dans le chant là. Qu'il nous prenne dans ses bras d'amour et qu'il nous comble de sa tendresse. Laissons-nous faire, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être arrosés par la tendresse de Dieu. Parce que nous avons besoin que, en nous, les graines germent. Et ces graines, ce sont des graines pour l'amour, pour porter des fruits d'amour et de tendresse. Ce n'est pas autre chose. C'est des graines de vie. Et on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans déborder d'amour. Hein, comme nous disait Jésus, que de vos cœurs, ça jaillisse pour la vie éternelle, comme un fleuve. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, de mon cœur jaillit un fleuve d'amour? Un peu difficile de l'exprimer. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va le dire oui. On va ouvrir nos yeux et voir le fleuve d'amour qui coule de nos cœurs. On ne le voit pas. Et on croit qu'on est sans amour. alors qu'on l'est. On est rempli d'amour. On n'est pas dans le désert, on n'est pas dans la sécheresse. Nos cœurs sont remplis d'amour. Et cet amour ne demande qu'à se déverser. Est-ce qu'on peut voir cet amour qui est en nous? On peut le voir, puisque c'est le Christ qui habite en nous, n'est-ce pas? Il est en nous l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? De ce déversement de gloire qui doit venir de nous et se déverser sur tous les gens qui nous entourent. Se déverser en premier sur nous-mêmes, parce qu'on est en train de crever de soif et de faim. Et puis se déverser sur les autres. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ce déferlement d'amour. Et comment est-ce que ce monde va connaître l'amour de Dieu si ce n'est pas à travers nos cœurs, à travers ces germes d'amour qui sont en train de pousser de nos cœurs? C'est à nous de répandre cet amour, n'est-ce pas? C'est à nous que cela revient. Et je suis là, avec, je vous parle avec un peu de véhémence, parce que j'ai tellement envie de pouvoir goûter les fruits délicieux que vous portez, n'est-ce pas? Vous portez des fruits délicieux et vous ne les voyez pas. Et vous croyez que personne ne les voit. Mais Dieu le voit. Lui, il voit, et il voit tout ce qu'il a mis en germe en vous, et il le voit comme si c'était déjà accompli. Comme on dit en hébreu, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ». C'est une promesse, et dans cette promesse, c'est de l'inaccompli et de l'accompli en même temps, vous comprenez? En hébreu, il y a l'accompli, l'inaccompli, presque en même temps. Donc c'est tout ce qui est dans les promesses de Dieu et ces promesses-là qui étaient dites en Ésaïe, elles sont en train de se réaliser dans nos vies, à nous de le croire, et d'arrêter de douter de nous et d'avoir les yeux toujours aveuglés et de ne regarder que ce qui ne va pas bien. On va regarder ce qui est en germe en nous et qui est en train de fleurir et de porter du fruit. Vous voulez bien? Faites-moi juste un petit sourire. Je serai rassurée que vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de recevoir ce genre d'exhortation, mais voilà, je me permets de le faire et de vouloir un peu secouer le prunier pour que les prunes tombent et qu'on puisse les manger. D'accord? C'est un peu ça que j'essaye de faire. Ou le cocotier, mais ça fait plus mal sur la tête. Alléluia. Je crois que j'ai dépassé un peu l'heure, non? Ça va? Oh, merci Seigneur. Je crois que ici, au milieu de nous, il y a des personnes qui ont besoin d'une grande consolation. Et donc, je veux demander à l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur, de venir nous visiter chacun. Surtout ceux qui ont le plus besoin de cette consolation. Que le Seigneur vienne visiter nos vies et que nous puissions réclamer cette consolation qui nous est due. Le Christ, il est mort en portant toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Et il a attaché de l'importance à chacune de nos souffrances. Même si nous avions été seuls à souffrir en ce monde, il aurait offert sa vie pour nous. Et donc, il faut qu'on tienne compte de ces souffrances, qu'on les considère assez importantes pour avoir provoqué la mort de Jésus et pour pas seulement provoquer sa mort, mais permettre que nos souffrances soient clouées à la croix et soient guéries et soient consolées. Donc si nous sommes encore en train de souffrir trop, c'est que nous n'avons pas été consolés et que la croix du Christ n'a pas été efficace dans nos vies pour nous délivrer du poids de la tristesse, du découragement, du désespoir qui vont avec les souffrances. Donc aujourd'hui, présentons-nous devant lui et disons-lui, « Papa, console-moi. » C'est ça l'amour de notre Père qu'on a chanté tout à l'heure. C'est l'amour de notre Père, la tendresse de notre Père. Est-ce que nous pouvons y croire suffisamment pour lui dire, « Papa, j'ai trop mal. Là, je souffre trop, console-moi. » Et il faut qu'on lâche nos souffrances, il faut qu'on les lui donne, qu'on lui dise « Allez, console-moi ». Alors nous allons nous attendre à ce que des miracles se produisent dans nos vies, des miracles de réconciliation avec les autres, de réconciliation avec nous-mêmes, de réconciliation avec nos ennemis, ceux qui nous ont fait du tort. Parce que l'amour qui est en germe en nous et qui va jaillir maintenant, parce que nous allons nous laisser consoler, les germes vont jaillir sous la pluie de la consolation. Et alors, nous allons être rendus capables d'aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire être capables d'aimer même l'ennemi, d'aimer celui qui nous a fait du tort, et de vivre cette chose extraordinaire. Je vais terminer par ça, si vous voulez bien. Dans mon premier livre, j'avais écrit un extrait d'un livre de Richard Wurmbrand. Vous connaissez Richard Wurmbrand, ce pasteur roumain qui a passé beaucoup d'années en prison. Alors qu'il était en prison, torturé tous les jours, il pensait cela. Il disait « Je suis toujours à l'école primaire. Quand j'aurai obtenu ma licence à l'université de la vie chrétienne, je comprendrai mieux les voies de Dieu et mes doutes cesseront. » Cet homme de foi extraordinaire, il parlait des doutes qu'il avait encore et il savait qu'ils cesseront. Nous, nos doutes vont cesser parce que l'amour et la tendresse de Dieu seront plus forts que nos doutes. Et notre pasteur continue, « Nous n'avons pas la juste notion de la puissance, de ce que signifie le pouvoir d'écraser, d'assujettir, de supprimer, de punir, pouvoir que les hommes exercent sans arrêt sur d'autres hommes. Mais il existe une autre puissance, disait-il, celle de l'amour, celle de la patience, celle de savoir souffrir innocemment et d'être bon envers les méchants. Voilà la puissance de l'amour de Dieu. Voilà la puissance dont Dieu veut que nous soyons habités. N'entretenons plus nos capacités de haine, de désespoir, de sentiments de frustration, sentiments d'injustice, sentiments de vengeance, qui sont là, même inconsciemment, au fond de nous. Ça doit passer et être remplacé par ces graines qui vont germer en nous, les graines de l'amour même de Dieu. Et qui est cet amour-là? C'est une puissance qui est au-delà de toute puissance. C'est une bombe atomique en nous qui doit se répandre. La bombe atomique de l'amour, de la patience. Ouh là là! Celle de savoir souffrir innocemment. Oui, on est traité injustement. Savoir souffrir innocemment, c'est la puissance de l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et nous voulons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous voulons vivre, savoir souffrir innocemment, sans rechigner, sans être là en train de se plaindre, en train de dire « oui, mais c'est pas juste ». Dieu fera justice lui-même, il nous vengera lui-même. Mais nous n'avons qu'une chose à faire, laisser se développer en nous la puissance de l'amour vrai. De l'amour qui sait souffrir innocemment et être bon avec les méchants. Posons-nous cette question, frères et sœurs. Après le culte, si vous voulez, vous pourrez demander la prière aux équipiers et vous pourrez peut-être déposer des choses qui sont encore en vous, des amertumes, de cette capacité à dire du mal du voisin ou de l'autre, de nos enfants qui nous font du tort, ou de ceux qui nous font du tort et qui sont devenus comme des ennemis ou de notre ancien conjoint, enfin, etc. Et où nous avons tendance à entretenir un regard négatif sur ces personnes et à ne pas être capable de les aimer. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai été capable d'aimer ma mère d'une manière nouvelle, alors que je pensais que c'était impossible. Elle était encore impossible à vivre, mais grâce à Dieu, j'ai été guérie. Et il m'a donné cette capacité d'aimer. Donc cette capacité d'aimer, je voudrais la répandre sur vous. C'est un trésor que je porte et que je veux vous donner de la part du Seigneur. Recevez ce don, cette capacité de faire germer en vous la capacité d'amour, une puissance inouïe que tout chrétien doit développer dans sa vie. Et on ne doit pas se résigner à ne pas vivre ça. La passivité, la résignation, ça, c'est ça le péché. C'est ça le péché. Et de continuer à penser de soi-même qu'on est incapable d'aimer. Non, cette capacité, nous l'avons. Nous l'avons. Être bon avec les méchants. Il dit, quand nous pensons énergie, parce qu'on parlait de puissance, nous pensons à la kinésie, la science en rapport avec le mouvement de toute chose. Mais il existe un réservoir immense d'énergie potentielle, d'énergie latente. Il existe une puissance de tranquillité, de sérénité. Une puissance de tranquillité et de sérénité. Ça, c'est les sentiments même de Jésus. Alors même qu'il était fouetté, battu, torturé, il avait en lui une puissance de tranquillité, de sérénité. C'est ça qu'il veut qu'on vive. Il ne veut pas changer les circonstances de nos vies pour faire en sorte que nos vies soient zen et tranquilles, mais au sein même de l'offense, au sein même du sacrifice, au sein même des attaques, parce qu'on est chrétien, et des persécutions, eh bien, il va nous donner accès à la puissance de tranquillité et de sérénité qu'il a mis en nous depuis toujours, mais que nous n'avons pas développé, n'avons pas arrosé et laissé arroser par la tendresse de Dieu, par sa consolation. Il disait cette chose, un officier communiste disait à un chrétien qu'il frappait, « Je suis tout puissant, comme vous supposez que l'est votre Dieu. Moi, je peux vous tuer. » Et le chrétien répondit, « La puissance est de mon côté. Je peux vous aimer quand même. » Quand vous me torturez à mort, je peux vous aimer quand même. Est-ce que nous voulons avoir accès à cet amour-là ? Moi, je veux ça. Je veux cet amour-là. Être capable d'aimer quand même, d'aimer l'ennemi, d'aimer celui qui nous fait du tort, ça, c'est le commandement de Jésus. N'est-ce pas ? Et on s'est dit qu'il exagérait. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du tort. Il exagérait. Lui, il pouvait le faire, mais nous. Eh bien si, on a été créés à l'image de Dieu. Et le Christ est mort sur la croix pour venir nous délivrer. Quand on dit délivrer, est-ce que c'est pour nous délivrer de tout le mal ? Mais c'est pour délivrer ce que nous avons enfermé en nous-mêmes. Il veut que la porte s'ouvre et qu'on sorte pour aller vers cette terre promise extraordinaire, la terre de l'amour. D'accord ? Alléluia. Voilà la toute-puissance de Dieu. Elle se reflète dans la profonde quiétude de l'âme des saints. Tout simplement. Profonde quiétude. Je souhaite vraiment que cette profonde quiétude, nous puissions l'expérimenter. Vraiment, en vérité. Et que de cette église jaillisse un réveil nouveau, d'une démonstration de ce que c'est que l'amour de Dieu et de la paix qu'il peut donner dans les cœurs. La solution à tous les problèmes de nos concitoyens est d'abord de nous-mêmes, de nos enfants, de nos familles, la sérénité et la paix qu'il peut donner, qu'il veut donner, qui est là en germe. Ouvrons nos yeux et Jésus, notre Messie, vient nous guérir de nos infirmités, de notre incapacité à voir ton œuvre, à voir ce que tu as fait, à voir tout ce qui est en germe en nous et qui est en train de se développer. Donne-nous cette capacité de voir le puits dans notre désert, de voir le désert refleurir. Donne-nous la capacité d'avoir nos langues qui se délient et que nous puissions parler de l'amour fou de notre Dieu. Que nous puissions sortir de... Que nous qui sommes boiteux, nous qui sommes handicapés, que nous puissions sauter comme un cerf. Que notre langue, oui, la langue du muet, éclate de joie. Et que donc ces eaux jaillissent dans mon désert et des ruisseaux dans ma solitude. Ma solitude n'est pas une catastrophe. Elle est l'endroit où je vais trouver le puits. Elle est l'endroit où la tendresse de Dieu va me rejoindre et faire pousser ce qui a besoin d'être poussé. Il fait pousser des fleurs dans le désert, pas sur les terres déjà fertiles. Dans le désert, il veut faire des miracles. Des miracles dans nos vies. Et que nos vies soient des démonstrations de la puissance de l'amour de Dieu. Et cette puissance de l'amour de Dieu, ce n'est pas une puissance comme on voudrait, allez, reçois la puissance, guéris les malades. Non, c'est la puissance de la patience, de la sérénité, du calme intérieur. Pas besoin de faire du yoga. Non, mais c'est vrai. En Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont faire de tas de recherches spirituelles ailleurs ? C'est parce que nous n'avons pas pu être, nous, la source de cette sérénité, de cette tranquillité, de cet amour parfait dont nous avons tous besoin. Amen. Soyez bénis chacun. Soyez bénis, que le Père pose sa main bénissante sur chacune de vos têtes et vous transmette sa tendresse même. Que vous puissiez jour après jour vous souvenir de sa tendresse et quand des souvenirs douloureux vous reviennent, que vous puissiez les exposer à sa miséricorde et lui demander la consolation. Les souvenirs qui ne sont pas consolés sont des poisons dans nos vies et c'est ce qui empêche nos graines de germer. Comme si on avait mis des désherbants. Hein ? Le désherbant, c'est cette toxicité que nous entretenons en nous, que nous le voulions ou non. Maintenant, voyons le désherbant que nous avons mis et qui empêche nos graines de germer. Amen. Amen. Merci.